entrer jusqu'au mail au chasseur oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous combattre au cas d'engage. Je pense que, en combinant les deux, juste de mes précisions, vous pouvez une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous sommes ensemble pour près de 57 minutes d'échange et de partage consacré au processus électoral en RDC. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié le 6 juin dernier le calendrier réaménagé des élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Le nouveau calendrier étend les processus électoraux jusqu'en 2014 au lieu de 2013 comme initialement prévu. Le scrutin provincial est prévu le 25 février 2013. L'élection des sénateurs aura lieu le 5 juin 2013 et celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces le 22 juin 2013. Les chefs de secteur et des bourgmestres et devraient être élus le 30 mars 2014. Notons que lors de la présentation de ces calendriers réaménagés, le président de la CENI s'est engagé à mettre en application toutes les recommandations de l'atelier d'évaluation du processus électoral dans les soucis, a-t-il dit, de crédibiliser la suite de ces processus. Que pensez-vous de ce nouveau calendrier électoral? Nous en parlons avec le professeur Jacques Douli, vice-président de la CENI. La réalisation est assurée par Titi Poutou, Mimi Kingou est à la mise en onde, Nicole Ngaka à la supervision. Bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocatie.net.
Mais également par la page Facebook des Paroles aux auditeurs, vous pouvez déposer votre commentaire qui sera exploité dans cette émission. Monsieur Jacques Deli, bonjour. Et merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation de Paroles aux auditeurs pour parler processus électoral. Un nouveau calendrier, on peut dire, réaménagé, qui fixe la tenue des différents scrutins, comme on venait de le dire, jusqu'en 2014. La première question, est-ce que c'est réaliste et réalisable ce calendrier réaménagé?
Merci beaucoup. Un calendrier, c'est un chronogramme d'activité. C'est donc un outil de planification, de programmation et de gestion. Le cycle électoral était d'abord planifié sur 3 ans, 2011-2013. Mais compte tenu de la situation que nous avons connue, nous avons préféré faire d'abord un point sur ce qui s'est passé et voir ensemble comment on peut continuer la suite. C'est donc à la suite de l'atelier qui s'est passé et qui n'a compte du contexte politique parce qu'il fallait attendre que le gouvernement soit mis en place et que nous puissions, conformément aux recommandations de l'atelier que nous avons eues au mois d'avril, intégrer les nouveaux paramètres, notamment la nécessité d'intégrer toutes les prévisions dans le budget de l'État. Je crois que le budget de l'État est plus ou moins prêt et ça sera bientôt défendu. Il était important que nous saisissions aussi cette opportunité pour faire une planification, sous peine d'avoir des difficultés à tenir, parce que déjà, nous avons perdu plus ou moins 6 mois et il y a comme une requalification du calendrier qui va jusqu'à 2014. Il était donc important que nous puissions, n'est-ce pas, mettre à disposition des acteurs politiques cet outil de programmation de gestion.
Et pour revenir une fois dans cette émission avec vous, vous avez évoqué le terme asymétrie des incisions, je crois bien, je l'ai dit de vous. Alors quand on regarde ce calendrier, les élections qui commencent en 2011, qui finissent en 2014, ça veut dire qu'on ne pourra jamais résoudre le problème de l'asymétrie des institutions. On va avoir un Sénat qui est issu des élections de 2006, puis les gouverneurs continuent, et c'est-à-dire que les élections n'auront pas résolu ce problème de ces institutions qui marchent, je peux dire, à deux vitesses par rapport aux animateurs.
Tout à fait. C'est la difficulté à laquelle nous étions confrontés. Nous devions faire à la fois un calendrier réaliste, un calendrier et qui puisse intégrer tous les éléments, mais en même temps, le temps ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas et les cycles institutionnels risquent donc d'être fortement perturbés. Déjà, le Sénat actuel devait, n'est-ce pas, être remplacé au mois de mai 2012. Et là, nous sommes obligés de prolonger pratiquement sa vie jusqu'au mois de juin 2013. Donc, il y a une année, n'est-ce pas, d'asymétrie. Et si nous continuons à attendre, n'est-ce pas, la publication du calendrier, et c'est là où nous sollicitons vraiment la compréhension et pour comprendre pourquoi nous avons mis en place ce calendrier, et nous demandons aux acteurs de nous soutenir sur ce point-là, acteurs politiques institutionnels et non institutionnels, parce que si nous continuons à attendre, donc nous prenons le risque de prolonger indéfiniment, la vie d'un certain nombre d'institutions. Mm-hmm. Et il commence à se créer des problèmes. Prenons par exemple le Sénat. Aujourd'hui, le Sénat a plus de 30% de ses membres constitués de suppléants. Et en ce qui concerne les assemblées provinciales, vous attendez toutes les difficultés qu'il y a à maintenir la discipline au sein des assemblées provinciales parce que leur légitimité est sujette à caution parce que nous avons dépassé les 5 années. De sorte que vous suivez ce qui se passe au Kassai oriental, au Kassai occidental, ou à l'Équateur, où un certain nombre de députés commencent à se battre, ou particulièrement, les bureaux ne sont plus acceptés. Et au-delà des bureaux, il y a les problèmes des gouverneurs. Les gouverneurs qui, pour les uns, sont pratiquement en cessation de légitimité de base. Donc, il est important que nous puissions rapidement et sans précipitation organiser les élections provinciales qui sont le base, n'est-ce pas, de la désignation des sénateurs, des assemblées provinciales, des bureaux des assemblées provinciales et toute la dynamique avec le gouverneur. Et que nous puissions entamer les élections locales et municipales qui sont le socle d'une démocratie de proximité. Parce que tant que nous n'aurons pas les élections locales et municipales, schéma ou niveau qui a été inachevé déjà en 2006, et si nous cumulons encore ces retards en 2011, 2012, 2013, dont nous risquons d'avoir un empalement des élections en 2016, ce qui va nous priver encore des outils de temps de respiration pour avoir de vraies bonnes élections en 2016. Voilà pourquoi nous avons mis en place ces calendriers pour que nous puissions tant soit peu récupérer les schémas au niveau des provinciales et au niveau des locales.
Et si on peut peut-être se demander à la CELI, en comparant en 2006, on a eu les élections des provinciales par rapport aux députés provinciaux, c'était ensemble avec le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et cette fois, on a supprimé, on peut dire, le deuxième tour, on est allé en un seul tour, mais techniquement, ça n'a pas été possible. Qu'est-ce qui a fait qu'alors qu'on a supprimé le deuxième tour, qui a permis qu'on fasse les élections des députés provinciaux au même moment avec le deuxième tour, et un seul tour, on a eu ces problèmes, et pourtant qu'on a vu du tout, ça semblait marcher en 2006, on n'a pas tenu à voir les députés provinciaux et mettre en place les élections provinciales. Techniquement parlant, qu'est-ce qui n'a pas marché entre les deux changements?
Les deux changements, c'est d'abord la durée. Vous savez, parfois, on nous reproche de parler trop du temps. Mais le temps est le maître de toutes les activités. Mm-hmm. Les élections que nous venons de voir ont été planifiées sur 6 mois, c'est-à-dire pratiquement sur 223 jours. Et il fallait avoir des élections couplées, présidentielles et législatives, avec un nombre d'électeurs beaucoup plus grand qu'en 2006, où on a eu 3 ans pour les organiser. Ce qui fait que nous avons eu un poids logistique et une formation en cascade qui nous a donné les résultats dont vous savez. Mais pour nous, ce qui était important, c'était d'abord des consolider le cycle électoral, d'éviter le vide au niveau des institutions parce que les acteurs politiques n'étaient pas tout à fait d'accord sur le contenu des institutions après le 6 décembre. Donc, après avoir réglé cette question, il était important que nous puissions avoir dans notre planification les élections provinciales au mois de mars 2012. Mais compte tenu de la nécessité de respirer. Donc nous devions d'abord faire une évaluation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, compte tenu de tout ce qu'il y a, et tirer les leçons. Et une des premières leçons, c'est ne faites plus de calendrier dicté par des considérations purement politiques ou politiciennes. Il faut faire un calendrier électoral basé sur des éléments techniques. Et les techniciens viennent de nous dire que vous avez reporté l'élection au 23 janvier 2013. Ça pouvait avoir lieu si nous avons commencé les opérations préalables au mois de mai 2012. Comme on n'a pas eu ces opérations préalables au mois de mai, et que nous commençons les opérations préalables au mois de juin et juillet, donc vous voyez qu'il y a glissement automatique au mois de février. Donc, chaque fois que nous prendrons un retard, il y aura obligatoirement glissement, et nous ne pourrons plus faire comme on l'a fait, essayer de compiler les délais, parce qu'il y a des délais légaux, par exemple en matière de recours, qu'on ne pourra pas compiler. Donc, il est important que nous puissions commencer. Et pour le moment, la spécificité, c'est que du 25 juin jusqu'au 27 juillet, il y a des opérations pilotes préalables. En d'autres termes, deux points sur lesquels toutes les missions européennes, toutes les missions d'observation, y compris notre propre peuple, a réclamé, c'est la question de liste électorale. Et avec beaucoup d'omis et beaucoup de personnes qui ne savaient pas exactement où ils pouvaient voter. Donc, ce qui fait que le taux de participation, malgré l'engouement de la population, a été faible. On va aux environs de 60%, alors qu'en 2006, le taux était de 75%. Il y avait donc un problème de reconnaissance des listes et la cartographie du bureau de vote. Donc, il est important que nous puissions commencer cette opération maintenant, avec une opération pilote sur trois circonscriptions. Nous avons pris la circonscription de Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, par exemple, sur le document administratif, il est signalé 17 quartiers, alors que sur le plan réel, nous avons 22 quartiers. Donc, il y a 5 quartiers, n'est-ce pas, qui ne sont pas été couverts par le bureau de vote et les centres d'inscription. Et la même chose, par exemple, à Bassoko, où il y a un certain nombre de groupements où on sent très peu de présence, n'est-ce pas, de bureaux de vote et des centres d'inscription, et il y a beaucoup d'omis. Vous vous rappelez que, par exemple, dans la province de l'Équateur, quelqu'un se réveille le matin pour aller voter dans un campement, ou un gandé, comme on appelle, il arrive à 12h et on lui dit que son nom est dans un autre campement. Il ne vote pas. Donc, il faut que nous puissions vider cette question-là, qui était une exigence d'ailleurs de la plupart des observateurs, y compris de l'Union européenne, la question des listes électorales et la question de la cartographie, qui va nous prendre plus ou moins 3 mois, et entre-temps, nous devons commencer déjà à recevoir les candidatures, parce que nous estimons que nous avons des partis qui sont suffisamment organisés.
Ok, nous allons écouter les auditeurs, ce qu'ils pensent de tout ça, quelles sont les questions qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître autour de ces calendriers. Théodore est en Bouzmaï, Adrien est à Kananga, et Variste est à Lubumbashi au Katanga.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-67-800 par internet ca@radiookapi.net.
Théodore, vous êtes en ligne de Mbujimayi au Kassai Oriental. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
On vous écoute, Théodore.
Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour,
monsieur. Je respecte beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Théodore.
Ouais, réaménager le calendrier est une bonne chose pour un groupe de gens, et non pour la population qui était vraiment dans l'atmosphère du vote. Vous voyez, c'est à cette population partout. Tous les gens étaient debout, même les vieillards étaient debout pour voter. Alors, ils ont vu des choses vraiment déplorables. Il n'y avait pas la neutralité, la transparence, même l'indépendance des élections. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, cette population est vraiment décidée, même des élections. C'est spécifique à travers une société civile, une partie politique, et en faveur peut-être de toute la population congolaise, qui nos amis de la CENI présentent un rapport financier sur l'actif et les passifs, afin de présenter les restes des matériels et l'argent même en espèce. Je suis en train de manger les interpellés, et qu'ils s'abattent en démissionnant, et l'éternel Dieu va les élever d'une manière ou d'une autre, comme proposition. dans les soucis de retrouver leur confiance dans les électeurs, et les législateurs redéfinissent la représentation des membres dans cette commission. Comme par exemple, l'Église catholique, des personnes, l'Église protestante, des personnes, société civile, 3 personnes, parti politique, MP, 2 personnes, et le parti d'opposition, 2 personnes, 11 personnes, nouveaux. Donc, une nouvelle équipe, une nouvelle commission. À ce moment-là, on doit regagner la confiance de la population qui est dessus.
Voilà. Oui, Théodore, votre souci, c'est qu'il faudrait, d'abord, vous avez dit des choses, vous demandez, plus sérieux pour vous, pour qu'il y ait la confiance et continuer le processus, que l'actuel bureau de la CENI puisse démissionner, c'est ce que vous voulez, et puis vous pensez qu'il faut redéfinir, c'est-à-dire que la composition du bureau de la CENI, qu'il faudrait y ajouter l'Église catholique, 2 personnes, l'Église protestante, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des confessions religieuses encore, comme les musulmans, les kimbandistes, les églises de réveil. S'il faut prendre en termes d'église, peut-être que toutes les églises voudraient bien être présenté à la série, mais votre souci,
c'est qu'il y a ici. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait ? Comme dans l'église des réveils, là, c'est qu'ils prêchent toujours leur prospérité et l'argent. Là, on ne sait pas. On parle seulement de l'église catholique, quand c'est pas ici, on parle que de musulmans.
Merci, merci, Théodore. Voilà.
L'église des réveils, pas que ce soit pas de l'église de prospérité en prospérité.
Merci, Théodore. Mais là, ça risque d'être comme une exclusion d'autres membres de la société. Merci beaucoup. C'est votre point de vue, vous pensez qu'il faut redéfinir la composition du bureau de la CENI. D'ailleurs, j'ai sur la table la proposition de loi du député Emery Okundi qui pense qu'il faudrait ajouter les membres de la société civile pour dans le bureau de la CENI. Merci beaucoup. Nous sommes à Tananga avec Adrien. Vous êtes sur les antennes. Bonjour Adrien.
Bonjour Pierre Lamengi et bonjour au professeur Johnny.
Voilà, nous parlons du calendrier réménager. En fait, et quand surtout nous parlons des élections, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qu'on évoque à la fois. On peut revenir sur ce qui avait été déjà dit, mais si on peut évoluer aujourd'hui par rapport à ces calendriers publiés, regardez dans l'enseignement, quel est votre point de vue, maître Adrien?
Oui, merci Pierrot. J'aimerais d'abord rappeler à tout le monde que la CENI est une institution citoyenne. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des histoires, il faut comprendre quel est le souci de la population congolaise. C'est un point. Et concerne maintenant le calendrier. À mon humble avis, je pense que c'est un calendrier irréaliste. Pourquoi? Parce qu'il va se poser deux problèmes. Le premier problème, au niveau des finances, la République démocratique du Congo va organiser bientôt, donc il y aura un sommet de la francophonie qui coûtera à la RDC de millions d'argent. Là, c'est un point. Je me demande comment est-ce que la CENI aura des moyens. Donc, en ce qu'on fait, le gouvernement qui est son partenaire, c'est pratiquement difficile pour ne pas dire impossible. Là, maintenant, la CENI sera obligée de tourner son regard vers le partenaire international. Or, Pierrot, il y a le partenaire international. Après, ce qui a eu lieu, c'est que les frères ont appelé élection bâclée et puis projet. Le 26 novembre 2011, il y a eu tout un tas de recommandations de la part des experts qui ont couvert ces élections-là. Mais à mon avis, la CENI continue toujours à faire sourd oreille jusque-là. La CENI ne prend pas garde pour répondre aux conditions lui posées par ses partenaires internationaux. Donc là, ça risque encore de se bloquer parce qu'il y a une question importante. Donc, de revoir et faire la composition de la CENI. Or, nous savons très bien que lorsque ce partenaire-là posait des conditions avant les élections, parce que il y avait toujours une certaine arrogance de la part de la CENI. Et aujourd'hui, nous comprenons que cette arrogance-là ne nous a amené à rien. Et la RDC est parmi le premier pays pour avoir organisé des élections vraiment qui n'ont rien à voir. C'est pour cela que j'aimerais poser la question au professeur Jody. Professeur, autrefois, vous étiez invité au Capitole à l'Ordre de Congolais. Vous avez dit, lorsque vous verrez que les histoires donc, ne vont pas bien marcher, vous allez solutionner. Aujourd'hui, toute la population congolaise, la communauté internationale demande le bureau de la CENI pour démissionner. Quel est votre point de vue?
Voilà, merci Maître Adrien. Vous pensez qu'avec le sommet de la francophonie, il va se poser un problème de financement de ces élections, c'est qu'il sera difficile pour la CENI de pouvoir respecter ces calendriers, et vous pensez que la CENI pourra se tourner vers ses partenaires qui avaient posé des conditions, et puis enfin, vous souhaitez par demander à notre invité qu'est-ce qu'il pense de la démission, comme lui, c'est lorsque vous dites dans une émission de l'Audience Congolais qu'il avait dit que si les choses ne marchent pas, il pourra démissionner. Cette question autour de la démission, l'émission de la CENI est revenue dans beaucoup de nos émissions. On va en parler. Bah, en attendant, on écoute Évariste qui est à Lubumbashi. Bonjour Évariste. Évariste, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. On a perdu Évariste qui est à Lubumbashi. On reste dans ces triangles, si on peut dire ainsi. Hein. On rentre en Bujimaï avec Émile. Émile, bonjour.
Bonjour,
monsieur. On vous écoute, Émile.
Oui, je suis très heureux de vous présenter, mais je suis très malheureux de vous présenter pour finir en Palestine, qui m'a déjà à tout le monde. Comment vous dites-vous, nous, les élections, nous, les chers primaires, nous sommes, je peux dire, pour aller au vote. Nous avons voté pour le candidat Salab, pour qu'il ne fasse faire la France de ce qui s'était passé en Turquie. En 2011, c'était plus important. Et je ne marche pas encore au Sénégal, après avoir vu les résultats sur toutes les distances populaires. Juste chez nous, c'était des milliers partagés partout, et c'était une difficulté pour nous obtenir des résultats. La CENI a été recommandée par la communauté internationale et tant d'autres observateurs qui étaient continués à nous donner encore des calendriers pour continuer à compter des populations et pas à la population. Nous disons à la CENI et aux professeurs des gens qui disent que nous, la population, nous n'aurons pas à aller au centre pour faire ce passé. Si jamais ils s'entêtent, ils n'ont pas fonctionné pour donner des gens valables, honorables pour lutter. Et ce sont vraiment dans la gestion et conception de la ressource même. Nous ne pourrons jamais au vote que nous devons faire à travers la peine de soins et de bouteillage. C'est pour que vous puissiez donner l'occasion à la CENI et nous traiter comme nous sommes encore de bon.
Oui, Émile, vous dites que nous demandons à la CENI de démissionner, de nous donner les gens valables. Ce n'est pas la CENI qui va démissionner elle-même qui va vous donner les gens valables. Les hommes qui composent, s'il vous plaît, Émile, si on peut, c'est un échange, on peut se communiquer. On sent que ça vous touche tellement, mais on peut s'orienter pour qu'on ait une idée. Les membres de la CENI sont désignés par les partis politiques qui les désignent. Alors, qui va vous donner ces gens valables? Ce sont les mêmes partis politiques qui ont désigné les membres de la CENI hier, ou ce sont les membres de la CENI, comme vous dites, qui démissionnent et qui vont vous donner les gens valables?
Même si nous avons donné des gens valables parce que eux-mêmes ne sont pas valables. Nous demandons aux partis politiques que nous avons fini vraiment du temps, qu'ils aient assorti l'argent, pour les remettre aussi, pour nous donner des gens valables qui respectent les choix de nos populaires.
Voilà, merci Émile, on vous écoute. Malheureusement, vous pensez qu'avec la série actuelle, il n'y a pas moyen de pouvoir aller aux élections, vous pensez même dire aux gens de ne pas aller voter, et vous souhaitez que les partis politiques qui avaient désigné les membres de la CENI puissent les démettre et vous présenter d'autres personnes, mais malheureusement, nous risquons de tourner autour des membres de la CENI et leur démission, et pourtant on a besoin d'évoluer dans cette émission. C'est pour cela que je me dis ceci. Notre question principale, c'est que vous pensez du calendrier électoral. On a fait déjà 4-5 émissions, on est revenu sur le problème de la démission, mais si l'émission peut aussi évoluer, ça peut nous permettre d'aller de l'avant. Délie et Moïse, vous gardez la ligne, Délie est ici à Kinshasa, Moïse est à Guéménan. On va revenir à notre invité, parce qu'il y a ce point de vue exprimé par le premier groupe d'auditeurs. On va continuer. Je rappelle encore que nous parlons du calendrier pour la suite du processus électoral, les élections provinciales jusqu'aux élections locales. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça s'étend de 2013 à 2014.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Au professeur Jacques Gély, au-delà de considérations sur votre démission, il y a beaucoup de gens qui sont revenus là-dessus. Il y a même, je crois, au niveau de l'Assemblée nationale, la société civile qui a déposé plus de 46 000 signatures réclamant la démission. Mais vous avez eu des séances d'évaluation avec la commune, avec les partenaires. On a parlé de la restructuration. Peut-être que c'est là où se pose des problèmes. Ça veut dire quoi, la restructuration de la CENI? Parce que le président de la CENI a dit, compte tenu de recommandations de l'atelier, qu'est-ce que l'atelier avait recommandé par rapport à ce qui s'est déroulé pour que vous puissiez améliorer? Mais il y a une question d'Adrien, c'est par rapport au financement de ces élections, avec les dépenses que le gouvernement peut engager pour le sommet de la francophonie. Êtes-vous sûr qu'on pourra avoir un financement à temps et permettre à ce que ces calendriers puissent être respectés?
Merci beaucoup. D'abord, je dois dire que vous m'avez invité pour que nous puissions parler du calendrier.
Mmh.
On a suffisamment débattu sur les petits problèmes de démission et autres. Et je crois que par respect pour les personnes qui viennent débattre ici, il est important que nous puissions garder le cap sur l'objet de la discussion. Il est important vraiment qu'on garde. Sinon, si on continue à discuter sur ces questions, nous serons obligés de ne plus venir discuter parce que ça fait partie de règles du jeu. Ceci étant dit, je voudrais dire aux amis qui parlent de réaménagement que la structure de la CENI n'est pas le produit de l'organisation interne de la CENI. La CENI a été mise en place sous base d'une discussion politique qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et qui a mis en place cette structure. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande évolution. La société civile qui s'était mobilisée timidement à l'époque, aujourd'hui s'est suffisamment mobilisée. Elle a obtenu 46 ou 50 000 signatures. Et c'est une bonne chose qu'on ait amené ces débats-là à l'Assemblée nationale, qui va voir aujourd'hui la nécessité d'avoir une structure où les politiques ne vont pas se partager d'ailleurs de manière inéquitable le poste entre 4 et 3 et introduire éventuellement, la société civile. Je crois qu'il y a un projet du gouvernement qui est élaboré, qui va être déposé, et j'ai aussi appris que le député, l'honorable Okundji, a déposé une proposition de loi organique dans ce sens-là. Donc, les débats vont avoir lieu, et nous avons déjà écrit à l'Assemblée nationale pour déposer le rapport du travail qui a été fait pour qu'on en puisse discuter. Donc, il n'est pas des schémas de se soucler définitivement à la CENI, il n'y a pas de clause de perpétuité à la CENI, mais il faut faire les choses dans les normes. Ce n'est pas parce que deux ou trois personnes disent qu'il faut démissionner, qu'il faut tout abandonner et laisser à volo une institution. Donc, le débat va avoir lieu, la restructuration est exigé par tout le monde, y compris par moi-même. J'étais sénateur, je peux vous rassurer que je n'avais pas voté la loi organique telle qu'elle et que nous avons estimé à cette époque qu'il fallait la présence de la société civile, il fallait des structures de contrôle, mais c'est une position de l'Assemblée nationale qui avait prévalu et nous sommes là, nous venons d'évaluer. Donc, ceux qui ont le pouvoir d'élaborer de la loi, de restituer de la CENI, vont le faire et je crois qu'ils s'y mettent parce qu'il y a déjà des propositions. Donc j'espère qu'on ne va pas revenir là-dessus.
Oui.
Alors, à ce qui concerne le calendrier ou la reddition des comptes, la reddition des comptes est un devoir citoyen, mais ce n'est pas un règlement des comptes. Il faut qu'on évite dans ce pays de tomber dans des schémas de boucs émissaires. Ce n'est pas la CENI qui avait demandé aux gens de Kabeakamwanga d'empêcher d'autres personnes de voter et d'instituer la violence. Ce n'est pas la CENI qui a demandé à une partie de partis politiques en Mbujimayi ou à Kananga de casser les bureaux de vote et d'instituer la violence et de violer même ou de s'attaquer à l'intégrité physique du personnel de la CENI. Donc, il est important qu'on comprenne que un processus électoral, c'est un schéma qui impose la responsabilité de citoyens, de partis politiques, et au cœur duquel de ce processus se trouve effectivement la CENI. Alors, le financement, oui, si nous avons présenté le calendrier, c'est justement parce qu'il faut demander le financement à fonction des objectifs chronogrammés. Et sur ce point-là, nous avons déposé le calendrier auprès du Premier ministre, parce que c'était la CENI. La CENI a le monopole et a l'autonomie d'élaborer le projet de calendrier et le budget y afférent. Si le gouvernement qui doit dépenser 5 millions parce que le Premier ministre s'est engagé devant l'Assemblée nationale lors de ses investitures, que le gouvernement allait financer le processus dans la partie qui reste. Donc nous avons envoyé le budget au gouvernement et l'Assemblée est l'autorité budgétaire. Si l'Assemblée dit que je n'ai pas d'argent, il n'y aura pas d'élection. Dans tous les cas, nous avons aussi protesté sur la manière de financer les élections passées où il n'y avait pas de dotation mensuel susceptible de nous faire, de nous aider à faire une planification financière sérieuse.
Oui.
Donc, nous aussi, nous attendons, n'est-ce pas, faire voilà. part à l'Assemblée de nos récriminations, de nos plaintes et de nos attentes pour cette élection.
Voilà.
Alors, il parle de la francophonie. Donc, lui, il estime, moi aussi, je crois que la francophonie est importante, mais la structuration d'un État de droit démocratique est aussi un objectif voilà. majeur que la voilà. francophonie. Donc, sur ce point-là, je voudrais le rassurer. Donc, il n'y a pas à résumer une volonté de se perpétuer à la CENI, il y a tout simplement un devoir de jouer dans le nord et non dans l'agitation
voilà.
et dans la précipitation et dans la manipulation.
Ok, nous avons Béli, Sekhissa, Moïse et Kadjiménon, Eric et Kaminon. Je rappelle, la question principale de cette émission, c'est ce que vous pensez du calendrier réaménagé pour les élections, la suite du processus électoral à partir de 2013 jusqu'à 2014. Les questions, les préoccupations dans cette émission. Béli, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Béli.
Oui, merci pour m'entendre la parole. Je voudrais vraiment intervenir dans cette émission pour que nous puissions comprendre que dans ce pays, nous devons avancer. Il ne faut pas qu'à tout moment, nous puissions chercher des problèmes, même là où il n'y a pas de problème. Vous savez que ce calendrier, nous l'attendions beaucoup. Nous devons avoir ce calendrier et nous, population, nous sommes conscients que ce calendrier sera respecté. Et il ne faut pas que tous les jours, et que les gens puissent nous dire, est-ce que la population congolaise a confiance au bureau de la CENI? Moi, je pense que ceux qui n'ont pas confiance au bureau de la CENI, ce sont ces gens-là qui, au départ, avant le 28 novembre, qui n'avaient pas confiance, monsieur le journaliste, n'avons-nous pas vu dans ce pays, avant le 28, avant l'organisation des élections, les gens marchaient chaque jeudi? Est-ce que là, on va nous dire qu'ils avaient confiance? N'avons-nous pas entendu sur les chaînes périphériques les grandes personnalités de ce pays qualifier même le président de l'institution de CENI des bandits? Alors, on veut nous faire croire que cette confiance a disparu aujourd'hui. Non. Je vous ai dit dans cette émission un jour que avant les élections, il y avait une partie qui préparait. Qui s'est préparé pour gagner les élections, et il y avait une partie qui s'est préparée pour contester les élections. Et nous, la population congolaise, nous avons failli aussi à notre mission. Il ne faut pas, à tout moment, qu'on puisse toujours tirer sur la CENI, c'est la CENI, c'est la CENI, c'est la CENI. Parce que nous l'avons dit avec ce qui s'est passé au Sénégal, au premier tour. Les politiciens ont appelé à l'agence, mais subitement, la population mature qu'il était, on n'a pas suivi de cette violence qui avait été appelée par les politiciens. Ils sont partis voter dans la paix et dans la sécurité. Le problème, c'est le climat dans lequel nous sommes allés aux élections. Et c'était un bon climat. Nous, population, est-ce que nous avons évité la violence? Nous n'avons pas évité la violence. Nous sommes tombés sur les pièges des politiciens. C'est ainsi que nous avons vécu ce que nous avons vécu. Donc, il ne faut pas que nous puissions toujours revenir. La structure CENI,
voilà.
C'était une structure qui était placée par des personnes. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent voir, qui peuvent examiner s'il faut restructurer, s'il faut aménager, s'il faut remplacer.
Merci.
Donc, ce n'est pas la CENI elle-même de faire des propositions, soit de se remplacer, soit de faire quoi que ce soit. Donc, la CENI est en train de faire son travail, pendant que les autres, donc les députés nationaux qui ont cette mission aussi de choisir les animateurs de la CENI, ils sont en train aussi de faire l'air. Et maintenant, la CENI ne peut pas croiser les bras parce qu'il n'y a pas encore cette recomposition de la CENI et que la CENI doit croiser les bras. Donc la CENI est dans ses obligations
de
faire ce calendrier
voilà.
et c'est vraiment tout à fait conforme.
Merci, merci Lili. Vous avez confiance en ces calendriers. Vous pensez qu'il sera respecté, les problèmes de la récomposition, restauration. C'est un débat qui doit continuer. La CENI ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a ces débats autour de qui va faire quoi. Mais vous avez quelque chose de très important. C'est que la méfiance, c'est pas seulement après les élections, mais c'est longtemps avant les élections que vous pensez que les gens n'avaient pas confiance. Merci beaucoup. Nous avons Moïse qui est à Guémina dans la province de l'Équateur. Bonjour Moïse.
Bonjour, c'est Moïse Kimimon depuis Guinée dans la forêt célibataire.
On vous écoute, Moïse, par rapport à ce calendrier. Quel est votre point de vue?
Oui, d'abord, avant d'y ajouter quelques analyses, je vais jeter un bloc ce que j'ai eu de dire mon prédécesseur. Pourquoi? Le calendrier électoral, d'abord, en soi, n'est pas mauvais. Parce que la CENI, n'est-ce pas, est une œuvre humaine, et puis le temps que la CENI a donné jusqu'à 2014, n'est-ce pas, ça va permettre de se restructurer, de se réorganiser. Toutefois, je me demande pourquoi la CENI refuse de démissionner pour publier un nouveau calendrier électoral malgré les différentes pressions structurelles par les ONGB, comme le Fonds international, entre autres, la Fondation Carter, la VSV, la Société Civile. Est-ce que nous sommes dans quelle république?
Oui, Moïse, si on peut se permettre d'avancer, oui. Moïse, on ne va pas quand même faire un débat qui va revenir sur les réponses, les questions posées, les réponses données. La loi prévoit dans quelles conditions la CENI peut démissionner. Si la CENI ne veut pas démissionner, elle veut continuer. Alors, qu'elle ne puisse pas sortir le calendrier, si on peut avancer. Par rapport à ce calendrier, la suite des élections, on a évoqué la démission, elle revient à la CENI volontairement, mais il y a des gens qui ont fait pression, comme vous l'avez dit, mais plusieurs personnes sont revenues sur le centre Carter. Je ne crois pas que le centre Carter ait demandé à la CENI de démissionner, ni les observateurs, à part bon, la suite civile, les autres politiques, mais parce qu'on a besoin d'avancer sur les débats autour du calendrier électoral. Vous avez dit, c'est un calendrier qui peut être respecté, mais est-ce qu'on peut avancer à partir de là? Moïse est en ligne. Voilà, on a perdu Moïse. Nous avons Eric qui est à Camina. On ne va pas revenir sur la même question. Les mêmes réponses sans que l'émission puisse évoluer. Moïse est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et oui, on vous écoute, Moïse.
Oui, ma contribution, je voulais d'abord recadrer un peu le débat. Je pense que lorsqu'on organise des élections, la population devrait avoir confiance aux dirigeants. À l'équipe qui dirige, donc au pouvoir organisateur de l'élection. Dès lors que cette position pour qui les élections sont organisées a perdu toute sa fonction, toute sa crédibilité. Sur le pouvoir organisateur, alors nous devons quand même être sincères avec nous-mêmes. On ne fait pas la compétence, la quantité à faire de la compétence dans ce pays. Pourtant qu'on a compris partout. Tout le monde, une nature, même dans cette majorité fabriquée qui est à l'Assemblée nationale, tout le monde est unanime aujourd'hui que ces élections ont été très mal organisées. Et le premier responsable de cette élection qui a été bâclée, ce sont les membres du bureau. Mais aujourd'hui, Moïse Moulunga devra reconnaître et par élégance, puisque les grands intellectuels, nous avons du respect pour M. Ndjoli. Il doit normalement rien de l'établir. Et avant de proposer ce calendrier, il devait d'abord passer à le Parlement. Il y a un audit à fond. Il y a même une exigence de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne, qui dit qu'il faut restructurer à fond ce bureau, cette semaine. Alors, dès lors que sont censés toujours à venir nous proposer, c'est vraiment un manque de concentration de notoire pour une population que nous sommes. Nous devons quand même regarder les choses, respecter le peuple congolais, parce que nous contribuons énormément pour la tenue de ces élections. Voilà ce que c'est ma conclusion.
Eric, pour vous, vous pensez que la CENI ne pouvait pas proposer un calendrier sans qu'on ait d'abord passé par un audit, par une restructuration? Peut-être que c'est une nouvelle CENI du nez de la restructuration qui pourrait proposer un calendrier pour la tenue des élections provinciales et des élections locales. Ça, c'est votre point de vue. Nous avons Maurice qui est à Matadi. Bonjour, Maurice. Maurice, vous êtes en ligne. Bonjour. Voilà, Maurice, apparemment... Oui, Maurice, vous êtes sur les antennes. Bonjour.
C'est
Eric de Camina. Alors voilà, là on a eu des petites difficultés. C'est Maurice de Matadi qui s'est exprimé à la place d'Eric de Camina. Mais non, Eric, vous êtes en ligne. Bonjour, Eric.
Bonjour.
Non, on vous écoute là. On a pu suivre votre nom sur Maurice de Matadi. On vous écoute, Eric.
Ok. Pour moi, les calendriers bien établis. Je suis pour ces calendriers. Mais je voulais souligner une chose. Bon, si les élections de 2011 ont eu des irrégularités, nous devons les partager d'abord. D'une part, entre la CENI, le gouvernement et même l'opposition. Et deuxièmement, je voulais interpeller le gouvernement. Si la CENI a, a peut-être mal organisé les élections passées, c'est parce que peut-être ils ont eu les moyens en retard. Ils ont financé la CENI bien avant pour qu'ils commandent les matériels, les bulletins qu'on sort et qu'ils les dispatchent bien avant. C'est ça la question.
Mmh.
Et en plus, moi, je ne suis pas pour la démission de la CENI. Il faut améliorer seulement parce que tout œuvre humaine a des erreurs.
Mmh. Voilà. Merci Eric. Vous pensez que le problème, ce n'est pas la démission, le problème, c'est plutôt partager la responsabilité des irrégularités des élections de la fois passée, mais il faudrait mettre à la disposition de la CENI des moyens un peu plus avant pour permettre à ce que les travaux soient bien faits. Pedro, vous êtes à Walita, à Kabacha, à Itabuka, vous gardez la ligne, on lit ces quelques messages. Pierre Davlos Makonda dit ceci, le calendrier déménagé par la CENI est valable, mais celle-ci doit bien former ses agents aussi en éducation civique et nous rassurer que cette fois-ci, il n'y aura pas des irrégularités. Le peuple congolais n'accepterait pas, ne pourra pas accepter d'autres scandales en ce qui concerne les élections. La CENI a intérêt à bien, cette fois-ci, organiser et réussir la suite du processus électoral. C'est le même point de vue de John Kamata qui est au Mozambique. Luc Mouvougui qui est à Butembo, fixer la date de la tenue des élections ne suffit pas. Que le gouvernement puisse faire preuve de moyens logistiques, doter la CENI de tous moyens possibles et laisser cette dernière indépendante. Pour la CENI, la transparence, l'indépendance, la crédibilité, on suppose que ces dernières élections seront quasi parfaites parce qu'on a presque toutes les corrections possibles. Mouaya Kaboulo dit ceci, pour le moment il y a un problème de méfiance, n'est-ce pas, de la population envers la CENI. Il serait mieux de pouvoir restructurer, échanger et puis proposer un calendrier après. Franck, qui nous écrit des viols, dit ceci, est-ce que les députés provinciaux ont-ils encore des légitimités? Ces changements de calendrier changent-ils aussi des dispositions constitutionnelles sur la durée du mandat des députés provinciaux? Voilà des questions qu'il pose, on pourra en discuter avec notre invité. C'est un mandat de 5, 6, 6 jours, voire même 7 ans pour les députés provinciaux. Et la symétrie sera-t-elle atteinte? Depuis 2006, les élections locales n'ont jamais été organisées. Nous sommes en 2012, elles auront lieu en 2014. Quel principe nous allons respecter? Voilà autant de questions que notre ami Franck est en train de se poser, Richard Caparalo de Bukavu. Je ne crois pas que les élections auront lieu car les dirigeants congolais disent trop, on propose trop, mais quand il s'agit de disponibiliser les moyens, on va poser des problèmes. On vous écoute, Pedro, vous êtes à Walikale, vous avez suivi la position des uns et des autres par rapport au calendrier électoral et réaménagé. À son respect, on vous écoute.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité de la radio Kati. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent sur toute l'étendue du territoire congolais. Juste un mot pour renforcer ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. C'est avec amertume que je vais supprimer, mais je vais tout à fait peut-être déclarer mes idées et les sujets du jour. C'est vraiment avec amertume qu'un pays comme le nôtre, très riche, très grand, du point de vue étendu pour superficie, qui parvient à organiser des fausses élections qui jusqu'à aujourd'hui ne parviennent pas à s'harmoniser. Alors, un avis pour être considéré. Je trouve que c'est difficile. Le mandat est de 5 ans. Comment voter pour les députés provinciaux et les autres en 2013, au moment où le président le numéro 1 de la République et les députés actionnants ont commencé à gagner à partir de la date où ils ont été élus? Alors, que ces derniers nomment le reste des autorités, quoi, au lieu de passer encore à d'autres élections, car les premières élections sont les meilleures selon les Français. Merci et je
vous en prie. Merci Pedro. Vous vous inquiétez par rapport à ces problèmes de la symétrie évoquée par l'invité, la France aussi qui a posé autant de questions sur la légitimité des députés provinciaux, quel mandat on va respecter en principe de quoi. Vous aussi, vous pensez qu'il serait peut-être mieux de nommer les restes des personnes privées qui procédaient aux élections, parce qu'il n'y a pas cette harmonie entre les institutions. On vous écoute, Kabacha, et puis on va revenir dans ce studio pour écouter notre invité. Kabacha, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, papa.
Et vous êtes à Bukavu dans le province du Sud Kivu. Oui, on vous écoute.
Oui. Bon, à ce qui concerne le calendrier électoral, nous dirons, nous, de notre part, s'il faut être légaliste en tout cas, que les élections ne sont jamais passées à l'ère de ces après 1990, après 1990. Pourquoi je le dis? En 2006, les élections municipales ne se sont pas tenues. En 2011, aujourd'hui maintenant, pas de provinciales, de sénatoriales et l'élection des gouverneurs. Donc, avec le même élan, en 2016, si nous sommes en tout cas légalistes, et si nous suivons très bien de la programmation du NER, nous dirons que les législatives ne seront toujours absentes. Et peut-être en 2021, ça sera le tour de la présidentielle, des présidentielles plutôt. Donc, une tendance justement vers un régime totalitaire antidémocratique. Toujours des calendriers, mais non matérialisés. Après 1 plus 4, nous avons vu l'AMP s'était vite précipité à changer les autorités qui étaient là placées par les différentes rébellions. Donc, nous avons vu dans les communes, on avait changé de bourgmestre, on avait vu changer même les maires de ville. Et nous sommes demandés en fonction des communes qui n'avaient pas ces élections. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont changer encore? Est-ce qu'il faudra quel genre de monde pour qu'on puisse placer là le gouverneur et même les bourgmestres? Est-ce qu'ils tiendront compte des gens de l'opposition? Parce que les gens qu'ils ont remplacés, ils ont mis totalement là les gens de l'AMP. Alors on se demande si les autres qui venaient de rébellion n'étaient pas capables de diriger, au moins de diriger très bien par rapport à ce qui se trouve aujourd'hui là au pouvoir. Donc c'est avec le même ton, le même optimisme, avec une même assurance que le professeur Jacques Ndoli nous promettait de bonnes élections avec des chiffres à l'appui jusqu'à la veille des élections, et lui attend que seul invité à la radio au Capi. Ah donc, est-ce que nous devons encore croire en lui avec le même taux, avec encore le même optimisme? Je crois que qui a dit, voilà, qui a trompé, continuera toujours à tromper. Il avait dit qu'il sera capable de démissionner. Il est bien prêt à démissionner. Nous ne faisons pas de démissionner, mais à respecter sa parole. À l'opposition maintenant, qui acceptera, donc à l'opposition qui acceptera, dans les mêmes conditions l'organisation des élections, nous dirons que nous n'aurons pas quand même pas tort. Et dire que cette opposition n'existe pas, c'est une opposition contre la population. Nous demandons, si l'opposition quand même est responsable, de nous proposer d'autres moyens pour accéder au pouvoir d'une façon légale et contredire ces calendriers, parce que nous savons que ça ne fait pas contre les désirs de la population.
Mmh, voilà. Oui, Kamacha, si vous dites qu'on vous propose d'autres moyens pour accéder au pouvoir de manière légale, je ne vois pas d'autres moyens en dehors des élections. Le moyen légal pour accéder
au pouvoir, légal.
Oui, mais ce que j'ai dit, le moyen légal pour
accéder au Congo semble être des élections, en tout cas, tout à fait compliquées, et ça ne donne pas vraiment une lueur d'espoir. Mmh. On change le mode d'élection.
Voilà, vous réclamez beaucoup de choses à la fois. On va revenir à vous, professeur Jacques Joly. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dégage dans les propos des auditeurs. C'est un problème de, je peux y résumer tout cela en termes méfiance des électeurs, de la population, des gens qui nous écoutent, qui vous écoutent, par rapport à la manière dont les choses se sont déroulées. Tout le monde a reconnu qu'il y a eu des irrégularités, y compris le président de la République, par rapport aux élections qui se sont tenues. Alors, les gens saisissent ces déclarations d'irrégularités pour peut-être charger la CENI, revenir sur ce problème de confiance, de méfiance, mais on revient à ces calendriers. Il y a beaucoup d'inquiétudes, de ce qu'on va tenir, comment les institutions vont commencer à fonctionner avec tous ces problèmes des uns et des autres. Mais il se dégage un souci pour les auditeurs, c'est de voir comment, cette fois, on peut techniquement, matériellement réussir à respecter ces calendriers. Est-ce qu'on pourra revenir un jour au niveau de l'organisation technique des élections, d'avoir les institutions qui démarrent au même moment? Est-ce que c'est possible?
Merci beaucoup. Je crois que la question de conscience, la question sur les personnes, ne constitue pas, à mon avis, l'objet de ces débats de ce jour. Nous devions discuter sur le contenu du calendrier, sur sa faisabilité, sur son financement, sur son aspect réaliste. En tout état des causes, je voudrais dire aux éditeurs que une élection n'est que le reflet d'une société. Et lorsque notre ami de Bukavu parle d'un résultat, mais à Bukavu, le gouverneur a été battu. À Bukavu, celui qui est venu en tête, c'est M. Vital Kamerhe. Donc, lui, à Bukavu, ne peut pas dire que la CENI a causé le résultat. La même chose pour notre ami de Matadi. Dans le Bas-Congo, le candidat de l'opposition a gagné à plus de 25%. Les députés les mieux élus de Matadi, c'est l'honorable Poula qui peut contester ces résultats-là. Donc, il ne faut pas que autour d'un certain nombre d'illégalités acceptées par les uns les autres, que nous puissions tomber dans un fatalisme total parce que Carter a dit ou l'Union européenne a dit. Ce sont des observateurs. Ils ont observé combien de points. L'Union européenne avait 127 observateurs qui étaient concentrés dans un centre-ville. Mais comment ils pouvaient être sûrs que sur les 64 000 bureaux de vote, ils étaient là? Non, on ne peut pas dire que les élections de 2011 ont été des élections parfaites. Nous étions le premier à les dire. Mais comme l'a souligné un des premiers intervenants, il faut comprendre le contexte. Ces élections ont été organisées dans un contexte de contestation politique. Liée. En 2006, il y a un parti qui n'avait pas, qui avait boycotté. En 2011, la révision de la Constitution dans un contexte chahuté, de deux tours à un tour, avait, n'est-ce pas, focalisé les tensions. Ensuite, la mise en place de la CENI elle-même n'a pas respecté le temps. La CENI devait disparaître, je l'ai toujours dit, en 2006, de l'installation du nouveau Parlement. On a fait 4 ans pour installer la CENI le 3 mars 2011. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il fallait tout organiser. Les choix de personnes, c'est aussi un autre problème. Moi, je n'ai pas été choisi parce que j'ai choisi l'autre. Non, nous sommes venus de forces politiques. Si aujourd'hui, ces considérations politiques qui ont même changé les calendriers pour qu'il y ait des élections couplées avec plus ou moins 19 000 candidats, ce qui corrompt le membre de CELSER, ce ne sont pas les membres du bureau. Ce sont les candidats. Ce qui crée la violence, ce sont les citoyens. Donc, il est important que chacun de nous, y compris par moi-même, nous puissions assumer les responsabilités dans le changement de cette gouvernance autocratique de violence vers une gouvernance démocratique acceptée. Il n'y a pas de démocratie par les textes. Il y a la démocratie parce qu'il y a des démocrates. Lorsque les uns ne veulent des élections, que si ces élections, eux, gagnent, on gagne et on gagne, et qu'il n'y a personne pour accepter la défaite, et que les uns et les autres s'organisent tout juste pour conserver le pouvoir de manière irrégulière ou régulière, il est difficile d'avoir cette. Il est donc important qu'on fasse cette mutation-là. Donc, en résumé,
on peut écouter les derniers auditeurs, il a peut-être 10 secondes parce qu'on n'a pas les temps platiques. Malheureusement pour vous, on est vraiment à la fin acculé par les temps. Vous avez juste 15 secondes, on va placer un mot pour la conclusion. Oui, Platini, on vous écoute. Platini, vous êtes à Tananga, on vous écoute, Platini.
Oui, merci beaucoup, monsieur Siro. Je suis en train de demander juste quelque chose au vice-président de la CENI. L'heure n'est pas à la démission, mais une chose est vraie, on garde ces gens-là qui travaillent, mais qu'ils s'amendent, qu'ils sachent que nous sommes dans un pays et nous devons vivre. Et à ce point de vue-là, ils doivent s'amender et comprendre que la population
voilà.
A besoin des élections libres, démocratiques et transparentes.
Merci,
et
merci Platini. Merci Platini, on ne peut pas vous permettre, parce que nous n'avons que une minute pour conclure. Une minute, c'est beaucoup, M. Jacques Joly. Il demande pour lui, c'est pas la démission, mais il faut que la CENI puisse amender.
Oui,
vous en profitez pour conclure, parce que là, on est
un peu par le temps. Assume sa responsabilité. Mais la CENI travaille avec 350 000 Congolais qu'elle engage sur le terrain. Je suis arrivé à Kananga. la corruption, la violence qu'il y a eu dans le Celster, ce n'est pas le fait du membre du bureau de la CENI. C'est à la population de Kananga de s'assumer. Et lorsque nous recrutons les gens sur le concours, nous prenons les enseignants, ils doivent comprendre qu'ils font une mission citoyenne. Et que ceux qui sont candidats, qui que ce soit, ne doivent pas utiliser la corruption, ne doivent pas utiliser le tribalisme, ne doivent pas utiliser la violence pour accéder au pouvoir. C'est lorsque nous aurons fait toute cette imitation-là que les choses auront changé. Dans tous les cas, on va restructurer la CENI, on va probablement avoir une nouvelle loi, mais le calendrier que nous présentons, c'est un texte technique de planification et de gestion, et j'appelle tout le monde, c'est un calendrier flexible qui pourrait être amendé, mais pour le moment, que le parti se prépare avec leur candidat le 5 juillet. Merci.
Merci beaucoup, professeur Jacques Joly. On ne pourra pas vider toutes les questions qui touchent au procès électoral. On se retrouve demain, mardi, pour une nouvelle émission. Vous savez que la semaine dernière, le gouverneur de la province du Kassai occidental a été destitué de ses fonctions par une motion de déchéance votée contre lui par l'Assemblée provinciale. Nous avons vu des cas d'émotion à travers le pays, dans beaucoup de provinces, et c'est là, j'ai la question dans cette émission sur la collaboration entre les institutions provinciales dans votre milieu. Comment vous gérez cette collaboration? Inscrivez-vous à pa@radiotapi.net. Merci à toute l'équipe Titi Poutou, Mimi Kindo, Nico Ndaka. Au revoir sur les 21 de Radio Tapi.